Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir.
Il est 19h02 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et aujourd'hui, à l'international, on vous parlera d'abord de ce qui se passe au Brésil avec les néofascistes qui se mobilisent contre la défaite de Bolsonaro. Ensuite, on parlera d'Elon Musk, le milliardaire qui licencie la moitié des salariés de Twitter. Et on finira par un point sur l'Iran où le mouvement social continue.
On continuera au national avec un premier sujet sur la méga-boîte Vinci, prochainement mise en examen, et un deuxième sujet s'ensuivra sur la tentative de dissolution par le gouvernement du bloc antifasciste lorrain.
Et puis au local, on aura deux notes positives avec un nouveau squat à Croix-Rousse et une reprise d'occupation à Berthelot.
Et on finira par interview avec le collectif Palestine 69.
Mais tout de suite, on va commencer par la citation de la semaine.
Assez courte, qui dit « Cela risque d'arriver un jour ». De quoi parle-t-on ? Dans le micro de Radio Canu, pas de surprise, on parlerait évidemment de la révolution. Mais dans la bouche de Didier Lallemand, il s'agit de tout autre chose. À l'occasion de la sortie de son livre intitulé modestement « L'ordre nécessaire », le plus radical des préfets de la France donne des interviews. Et c'est dans ce contexte que dimanche 6 novembre, il confiait au peu recommandable journal L'Opinion, son inquiétude face aux révoltes grandissantes. Il en a alors profité pour nous mettre gentiment en garde que les forces de l'ordre devront peut-être bientôt ouvrir le feu contre des manifestations. Alors, prophétie autoréalisatrice, on n'espère pas, mais le gouvernement vient de commander 90 véhicules blindés, équipés de lance-grenades et d'un fusil mitrailleur, capables de tirer rien moins que 1000 coups à la minute sur tout ce qui passe devant. Pas très rassurant tout ça. Rappelons quand même qu'en décembre 2018, au plus fort des gilets jaunes, des tireurs d'élite avaient été déployés à Paris car le pouvoir craignait un embrasement total de la situation.
Et puis, le tweet de la semaine.
Et c'est un tweet qui se passe de commentaires. Je le cite. Pour rappel, les Black Blocs qui ont vandalisé mon véhicule à Sainte-Soline pourrissent depuis des années les mobilisations climat et sociales, font fuir par leur violence les citoyens et les familles, légitimer leur action tuera l'écologie politique. Qui a dit ça ?
Un camarade
très radical, Yannick Jadot, qui, dont l'action, quant à lui, pour les mobilisations climat et sociales sont vraiment d'une efficacité redoutable. On le remercie pour sa présence qui n'a jamais fait fuir personne. Merci Yannick.
Bon, d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait huer hein, à Sainte-Soline, donc a priori, il n'était pas le bienvenu.
Visiblement, il s'est aussi fait vandaliser son véhicule.
C'est bien. Alors, on continue avec les brèves, mais cette semaine, c'est une spéciale brève des grèves.
Oui, finalement, c'est une rubrique en grève plutôt que en bref.
En bref.
Donc, les ouvriers de Géodis, vous en avez peut-être entendu parler, les ouvriers de Géodis Gennevilliers sont en grève depuis le 17 octobre. Ils demandent principalement des NAO anticipés. Les NAO, c'est les négociations annuelles obligatoires. Ils ont appris que leurs dirigeants touchaient 250 000 euros de primes quand les salariés, eux, plafonnent à 1400 euros net. Voilà, donc c'est la CGT qui mène la grève. On suivra un petit peu plus en détail la suite du conflit.
Et puis, la grève continue à Fézin, à la raffinerie, et ce depuis 41 jours. C'est la dernière raffinerie officiellement en grève. Alors, on vous en a déjà pas mal parlé. À Fézin, comme à Gonfreville, qui a, elle, arrêté il y a 5 jours la grève, hein, ils avaient continué la grève, contrairement aux autres raffineries qui avaient accepté l'accord avec les syndicats traîtres de la CFDT et de la CFE-CGC, notamment car des salariés avaient été réquisitionnés par la force, par les forces de l'ordre, pour les forcer à aller travailler. Eh bien, à Fézin, cela ne continue à ne pas passer. La grève continue, même si Olivier Dubos, le ministre du Travail, et Pouyanné, le PDG, font tout pour minimiser cette grève, et surtout pour qu'elle s'arrête. Eh bien, dans les faits, il y a encore un taux de grévistes important, et nous ne pouvons leur souhaiter que plein de courage après 41 jours. Force à eux et elles.
Alors, du côté de Sanofi, ça bouge aussi. À Lyon, il y avait la Sanofi Genzyme, pardon, qui était en grève il y a deux semaines de ça. Là, c'est l'ensemble de la Sanofi au niveau national qui appelle à la grève, donc un mouvement de grève qui débutera entre le 14 et le 16 novembre, selon les sites. Pareil, hein, on suivra un petit peu les suites de cette grève.
Et depuis plus d'un mois, c'est les salariés du Centre d'action sociale de la ville de Paris qui sont en grève, parce que nombreux salariés n'ont pas le droit à la prime Ségur, alors même que tous et toutes font face à un public en grande précarité. La grève se déroule notamment au restaurant Palikao, qui dépend donc directement du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et alors que les aides-soignantes, infirmières, travailleurs sociaux, cuisiniers et agents administratifs y travaillent dans des conditions similaires et participent aux objectifs communs, ils ne sont pas tous et toutes considérés de la même manière par la ville de Paris, certains étant donc éligibles à la prime Ségur, d'autres non. Autrement dit, là, ce sont surtout les agents administratifs ou techniques de ces structures qui sont les grands oubliés de Ségur.
Et également, aujourd'hui, on apprenait que les chauffeurs des cars du Rhône se mettaient en grève parce qu'en fait, il manque d'effectifs. Donc, c'est un appel de la CFDT et de la CGT. On pense aussi aux grévistes de Arc-en-Ciel, la société de nettoyage de la gare de Perrache, qui poursuivent leur mouvement de grève, dont on a longuement parlé ici. On vous invite à aller écouter les différentes interviews qu'on a pu leur faire au Canu Info du lundi. On rappelle aussi que le 10, donc ce jeudi, il y a un appel à la grève nationale. À Lyon, on sait que ça va pas mal se bouger du côté des ADSEM et de la CGT Ville de Lyon. Il y a une manif qui partira à 11h30 de Jean Massé. On le rappellera évidemment dans l'agenda, mais on vous invite toutes et tous à y aller massivement.
Et puis, on enchaîne avec l'habituel.
International.
Et on commence tout de suite par aller du côté du Brésil.
Oui, vous le savez, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, dont on a déjà pas mal parlé, ne s'est pas fait réélire au Brésil face au social-démocrate libéral Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, de son petit nom, leader du Parti des Travailleurs. Alors, comme bien souvent, une fois que les fachos sont au pouvoir, il est bien difficile de leur faire accepter une défaite. Depuis une semaine, l'agitation néofasciste règne dans une bonne partie du pays de manière non exhaustive. En voici quelques bien tristes exemples. Alors, dans la capitale, déjà, Rio de Janeiro, une énorme manif de plusieurs dizaines de milliers de personnes s'est déroulée mercredi en réclamant une intervention de l'armée. En gros, un putsch, soyons clairs. Heureusement, cela n'a pas eu lieu, même si on ne connaît que trop bien les accointances politiques entre les principaux généraux de l'armée brésilienne et le clan Bolsonaro. tous plus nostalgiques les uns que les autres de la dictature de la junte militaire de 64 à 85. À Sao Paulo, deuxième grosse ville du pays, également des dizaines de milliers de personnes ont appelé à l'armée. Des tracts expliquaient carrément qu'ils étaient prêts à la guerre. Alors derrière cette soi-disant guerre, encore une fois, il y a les évangélistes, très puissants au Brésil et force d'appui considérable pour Bolsonaro et l'extrême droite, et d'ailleurs qui l'avait amené au pouvoir en partie à l'élection précédente. Un peu partout dans le pays et de manière générale, des blocages et des barrages de routes ont été organisés depuis plusieurs jours. Mercredi, c'était le pic, il y en avait jusqu'à 500 répartis dans 22 États. Il y en a un peu moins en cette fin de semaine dernière, à ce week-end et aujourd'hui. Dans l'État de Santa Catarina, qui se situe dans le sud du pays, c'est soit l'État le plus facho du Brésil, hein, avec une très très large majorité blanche, et où Bolsonaro a fait plus de 70% des voix, les nombreuses manifestations était véritablement flippante, puisqu'on y voyait des saluts nazis et des saluts fascistes. Beaucoup de vidéos sont là pour le prouver. Les néo-nazis sont nombreux au Brésil, notamment dans cet état de Santa Catarina, et ils soutiennent Bolsonaro, qui lui-même est un soutien inconditionnel de l'État d'Israël. Pour s'allier contre les Palestiniens, de toute façon, on n'est pas à une grosse contradiction près. De manière générale, les exactions et ratonnades fascistes ont été monnaie courante toute la semaine dernière. Tout ça sous les yeux bienveillants de la police, dont une bonne partie, d'ailleurs, n'a pas hésité à manifester aux côtés des bolsonaristes. Depuis vendredi, l'armée est néanmoins mollement intervenue par endroits, réduisant les blocages des routes et les manifestations. Bolsonaro lui-même a tenté un apaisement du bout des lèvres. De toute façon, ne comptons pas sur les sociolibéraux de Lula et du PT pour apaiser les tensions. Lula au pouvoir, on connaît. C'est un militant du FMI et de la Banque mondiale, c'est un allié du patronat. Le véritable rempart, on le sait, c'est le mouvement social. Déjà depuis plusieurs jours, le mouvement des Sans-Terre, par exemple, a lancé un appel pour s'opposer aux fascistes. Des groupes de gauche radicale et d'extrême gauche, ainsi que des partis non négligeables de la population, sont allés eux-mêmes s'affronter sur les barrages bolsonaristes. Alors on leur souhaite bon courage, puisque ça a l'air, une fois n'est pas coutume, pas simple au Brésil.
Et on continue à l'international avec le petit oiseau qui est donc libre. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Vous vous souvenez sans doute de l'annonce au printemps dernier, hein, justement, du rachat de Twitter par Elon Musk, le milliardaire américain qui, on le rappelle, hein, a fait fortune majoritairement pendant la crise de la Covid, avec une progression de 150 milliards de dollars en 2020. Il possède déjà Tesla, PayPal ou encore SpaceX. Selon Forbes, son patrimoine atteint 269 milliards de dollars. Elon Musk, donc, avait finalement renoncé à cet investissement foireux pendant l'été. On sait que Twitter n'est pas en grande forme financière, hein, puisque selon Elon Musk, le réseau social perd 4 millions d'euros chaque jour. Mais voilà que l'homme le plus riche du monde a relancé son projet de rachat. Donc ça, c'était au début du mois. Il l'avait annoncé le 4 octobre. Il faisait de nouveau une promesse d'achat au prix convenu en avril, donc 44 milliards de dollars, rien que ça. Alors, ce qui est rigolo, hein, c'est que Elon Musk avait beaucoup critiqué Twitter au moment de sa première offre d'achat. Il accusait notamment la plateforme de censurer ses utilisateurs. Et il avait justifié son renoncement en affirmant qu'il y avait trop de spam et de faux comptes sur la plateforme, plus de 5%. Alors c'est rigolo, hein, parce que dès qu'il a été enfin à la tête du réseau la semaine dernière, la première chose qu'il a fait, ça a été de licencier la moitié des salariés, notamment celles et ceux qui étaient en charge de détecter les faux comptes et essayer de modérer le réseau où, on le sait, la haine coule à flot et les propos racistes, misogynes en tout genre. Il a également dissous le conseil d'administration, licencié l'ex-patron, le directeur financier ainsi que la responsable des affaires juridiques, ce qui nous a valu un petit tweet de Donald Trump qui nous dit « Twitter est désormais entre de bonnes mains et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement notre pays ». Ça en dit long sur ce qu'Elon Musk compte faire du réseau social. Pour poursuivre dans les blagues, ce lundi, on apprend que des dizaines d'employés qui ont été licenciés donc vendredi par mail ont été rappelés pour revenir, soit parce qu'ils avaient été licenciés par erreur, c'est-à-dire que le mail ne leur était pas destiné piétinait en fait, soit parce que la direction s'est rendue compte que leur expérience était absolument nécessaire pour construire les nouvelles fonctionnalités que Musk entend mettre en place pour la plateforme. En même temps, quand on vire la moitié de ses employés, on peut bien se douter qu'il y en a quelques-uns qui étaient là pour quelque chose et dont le travail était utile. Bref, je pense qu'on n'a pas fini de se marrer avec Elon Musk à la tête de Twitter.
Et toujours à l'international, on va vous parler du mouvement social qui continue.
Oui, le soulèvement notamment de la jeunesse iranienne est entré désormais dans sa 7e semaine. Pour rappel, c'était la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, tuée par la police des mœurs iranienne, qui avait donc déclenché un mouvement de révolte désormais généralisé. Mais depuis une semaine, la révolte s'amplifie, notamment autour des funérailles, qui deviennent l'occasion d'énormes manifs anti-régime et qui se teintent même d'une forte coloration anti-religieuse. Après avoir enfermé, tabassé, tué, que pouvait encore faire le régime iranien pour mater la révolte ? Eh bien, kidnapper, non, pas les vivants et les vivantes, ça ils le faisaient déjà, mais les morts. C'est bien ce qui s'est passé le 25 octobre avec le corps de Reza Hajizadnejad, journaliste d'opposition rapatrié en Iran pour son enterrement. Alors même que l'avion qui rapatriait donc le corps s'est posé sur l'aéroport de Shiraz, les Pasdaran, les forces de sécurité spéciales, ont embarqué le cercueil, hop, ni vu ni connu. Confisquer un cadavre, l'opération illustre la férocité de la répression de la part du régime des mollahs de la République islamique en place. Depuis l'incendie de la prison d'Evin, le 15 octobre, dont on avait parlé ici à l'antenne, quand les détenus de droit commun, rappelez-vous, qui protestaient ont été repoussés à coups de fusil, et bien depuis octobre, les manifestations ont bien entendu continué dans tout le pays, mais la répression aussi. Pour les chiffres, à la date du 28 octobre, 253 personnes avaient déjà été tuées en Iran. Le mouvement entre ainsi dans une phase où les victimes deviennent des martyrs dont la mémoire relance le mouvement. Qu'il s'agisse de la jeune chirurgienne Pariza Bahmani, décédée le 28 octobre des suites des blessures reçues pendant un rassemblement à Téhéran devant le Conseil des médecins, ou bien qu'il s'agisse de l'adolescente Nika Shakarami dont le nom est désormais systématiquement scandé à chaque manif, on voit bien que la révolte compte ses morts. Et que dans ce sinistre décompte, la colère et la force est puisée pour donner suite à la révolution. Alors que le président iranien Raisi essaie de faire passer la dernière attaque meurtrière de la part de l'État islamique en Iran sur une mosquée chiite pour une action du mouvement contestataire, il est clair que le mouvement de contestation ne tombe pas dans le piège. C'est bien ce que montrent donc les dernières mobilisations autour des funérailles, notamment les cérémonies du Teloum, qui marquent le 40e jour de deuil, qui sont à chaque fois l'occasion d'une remobilisation du mouvement. Il faut donc noter que cette martyrologie qui se met en place ne prend paradoxalement pas des tournures religieuses, elle est plutôt une invention supplémentaire, intelligente, du mouvement en place pour maintenir vivace l'opposition au régime religieux force au peuple iranien.
Et on fait une petite pause musicale avec un morceau qu'on ne vous a jamais mis, Made in France.
Made in France, pas Made in Taiwan. Ok. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Frantz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont démoli immense des parcs de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissant le blast d'Ibn Battuta. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, ni que le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de sambosseurs. De Népalais, de Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues d'Inde par conteneur comme parquette de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques. Croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique.
Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent. Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens. En génocide, en toutes les dindes, et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les Noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. Je suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être légal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses. Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. Je suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad. Qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage. Pas made in El Madina. Si mon père m'a donné ce blaze, c'est pour honorer son sab, pas pour surfer sur l'histoire. Made in France. Des pays pauvres, je suis un palmier du pays de Caux. De la France périphérique comme Adama, oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiéniste de gauche, entre Ademo, NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui y'a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à l'indou comme pépita dans pyramide. Prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu louches c'est qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des émirats. Ou bien l'essence de Total pour les passes contre la jeune Birman. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'appelons meurtre, trop vite gerber jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? Je sais plus si la France ça s'épouse, si on s'en passe ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, vous écoutez le Canu Info du lundi, vous venez d'écouter Made in France, et tout de suite on passe à l'actualité.
Eh bien, vous allez, voilà.
J'étais presque trop rapide.
C'était une tentative ratée de mon côté.
Et on commence tout de suite par un sujet sur nos amis de Vinci.
Oui, Veni, Vidi, Vinci, je suis venu, j'ai vu et j'ai perdu. Une filiale du groupe de BTP Vinci va être convoquée ce mercredi par un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Il s'agit d'une enquête sur la filiale Vinci Construction Grand Projet à propos des conditions de travail sur les chantiers au Qatar. Alors, une première plainte avait été classée sans suite par la justice française en 2018, mais en 2019, de nouvelles plaintes d'associations et d'ex-employés indiens et népalais ont provoqué l'ouverture d'une enquête par un juge d'instruction. Le géant du BTP et sa filiale qatari sont accusés de réduction en servitude, de traite des êtres humains, de travail incompatible avec la divinité humaine, de mise en danger délibérée, de blessures involontaires et de recel. La liste est donc bien longue. Alors, selon les témoignages recueillis par l'ONG Sherpa, qui participe à la plainte, les employés de Vinci, qui sont tous des immigrés d'ailleurs, travaillaient entre 66 et 77 heures par semaine, alors que pour rappel, le maximum hebdomadaire est de 48 heures selon les standards internationaux. Ils percevaient des rémunérations, je cite la plainte, sans rapport avec le travail fourni, donc concrètement ça veut dire qu'on est proche de l'esclavage, et les employés étaient menacés de licenciement ou de renvoi dans leur pays en cas de revendication. Comme tout bon criminel, Vinci réfute vigoureusement les allégations portées à son encontre. Dans un communiqué, l'entreprise juge utile de préciser d'ailleurs que les projets ont été décidés avant que l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022 ait été attribuée. Alors s'il est vrai que les projets visés dans cette plainte ne sont pas des stades, il s'agit pourtant soit d'infrastructures de transport, soit d'hôtels de luxe, dont il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'ils seront utilisés pendant la pire Coupe du Monde de l'histoire. D'après les mots même de l'avocat de Vinci, l'entreprise craint d'ailleurs un terrible tumulte médiatique. On plaint d'avance les actionnaires. Mais plus intéressant encore, un audit avait été réalisé en janvier 2019 par plusieurs organisations syndicales, la CGT, CFDT et la CFE-CGC, sur les activités de Vinci au Qatar. Et cet audit avait conclu à l'existence de soi-disant bonnes pratiques en matière d'emploi au Qatar, ce qui est a priori franchement contradictoire avec la plainte déposée par la suite. Et donc, si la mise en examen de Vinci était validée ce mercredi, cela confirmerait que les multinationales véreuses ont chaque jour un peu plus de mal à se défausser éhontément derrière des chaînes de valeur jugées trop complexes. Cela montrerait aussi que les mesurettes dont le monde de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, dont le monde donc de la RSE se veut leur grand zélateur, et ce qu'avait mis en avant l'audit de 2019, donc que ces mesures d'amélioration volontaire ne permettent pas d'échapper aux sanctions pénales lorsque les multinationales commettent des crimes.
Et puis, une nouvelle tentative de dissolution du gouvernement.
Après...
Tu n'as plus ton micro.
Non, je disais que c'était bien une tentative de dissolution du gouvernement.
Après le CCIF, le cri après Nantes révoltée, après la Galle, après Palestine vaincra, la liste devient longue, c'est maintenant autour du bloc lorrain que le gouvernement s'attaque. Ce collectif écologiste, anticapitaliste et libertaire a reçu il y a 2 semaines un courrier lui annonçant l'intention de Darmanin de demander sa dissolution sous prétexte d'incitation à la haine et à la violence. Criminaliser l'ennemi pour le supprimer, on connaît la recette. À vrai dire, ce qui inquiète le gouvernement, c'est sans doute ce que le bloc lorrain s'organise pour montrer que, collectivement, on peut articuler critique de l'État et entraide populaire. Car en effet, le bloc lorrain, c'est d'abord des maraudes chaque semaine pour distribuer des repas, un réseau social, des collectes de vêtements et de médicaments destinés aux plus démunis, mais aussi une distribution de produits de première nécessité aux étudiants les plus précaires. Mais au sein de ce panel d'action pas tellement offensive, le gouvernement préfère y voir des appels à la violence et à la haine, prétendument justifiés par la mise en place de street medics, vous savez, les personnes qui vous soignent en manif. Alors, encore un prétexte pourri pour écraser des contre-pouvoirs locaux qui animent la vie politique de nos villes et de nos régions. Mais face à ces attaques, la résistance est au rendez-vous. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées samedi dernier, le samedi 5 novembre, dans les rues de Nancy pour manifester leur soutien au bloc lorrain. Banderoles, slogans, fumigènes étaient au rendez-vous. Alors, soutien au bloc lorrain.
Et vivement la dissolution du gouvernement.
Voilà, on revient à la blague de tout à l'heure.
Local.
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 Et on local.
Passe tout de suite à l'actualité locale avec l'ouverture d'un nouveau squat à la Croix-Rousse.
Oui, depuis le mercredi 2 novembre, un nouveau squat a été ouvert au 55 rue Henri Gorgius dans le 4e. Ce nouveau squat, officialisé samedi, a été ouvert une fois n'est pas coutume pour y héberger des mineurs isolés non accompagnés en recours après, entre autres, Maurice Sève, Le Chemineur ou chez Gemma, qui étaient des squats déjà dans les pentes de la Croix-Rousse ou sur le plateau de la Croix-Rousse. Car l'histoire se répète, la métropole, via notamment l'association Forum Réfugiés, refuse de considérer mineurs ces jeunes hommes, principalement des jeunes hommes, hein, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des jeunes femmes, et qui les maintient donc à la rue. Sachant qu'après le recours devant le juge des enfants, 80% d'entre eux sont reconnus mineurs. Et pourtant, cette métropole de Lyon, qui, doit-on le rappeler, est toujours tenue par ces non-gauchistes d'Europe Écologie Les Verts, continue cette politique raciste et inhumaine. Comme tous les ans, des collectifs d'habitants de la Croix-Rousse ou des Pentes ouvrent des squats. C'est également ce qui se fait dans d'autres quartiers lyonnais. La politique raciste du gouvernement et des institutions locales pousse de plus en plus de personnes migrantes, mais pas uniquement, bien sûr, à la rue. À quand la fin de l'impunité ?
Et on descend de la colline pour aller du côté du 7e arrondissement où aujourd'hui le collectif de parents solidaires de l'école Berthelot a annoncé reprendre l'occupation de l'école. Il s'était déjà mobilisé en octobre pour organiser la solidarité pour un petit garçon scolarisé de 3 ans et sa maman qui était à la rue. Ils avaient d'abord payé des nuits d'hôtel, puis occupé l'école la semaine du 17 octobre. Pendant les vacances, ils ont été hébergés, mais la famille se retrouve de nouveau sans solution, obligeant donc le collectif à occuper une nouvelle fois l'école. On vous tiendra au courant des initiatives solidaires et de comment leur donner un coup de main. Il y a une cagnotte en ligne.
Voilà, on va faire une petite pause musicale avec un morceau
d'une rappeuse palestinienne, donc, pour faire une transition avec l'interview d'après. On écoute donc Sabrina Dawitch avec son morceau « Vain ma fihada ».
Toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h33. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi. On vient d'écouter Sabrina Dawitch, une rappeuse palestinienne. Et on passe tout de suite à notre dossier du jour.
Qui est donc une interview sur la situation en Palestine.
Oui, on est ravis ce soir d'accueillir trois membres du collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Alors peut-être tout de suite, on va vous laisser vous présenter vous-même, présenter le collectif, ses modes d'action, les campagnes qu'il porte. On vous écoute.
Alors, je vais déjà me présenter. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Lila, je suis membre du collectif 69. Comme son nom l'indique, c'est un collectif, mais je suis aussi membre d'Europalestine, qui est une association aussi, mais qui est signataire du collectif 69. Je vais laisser la parole à mon collègue. Moi, je suis Dominique Noli.
je suis membre du collectif, secrétaire adjoint. Voilà, ça fait un certain temps que je milite, et sur la Palestine notamment.
Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est JB, secrétaire du collectif 69 pour la Palestine, militant depuis plusieurs années aussi pour la Palestine et globalement pour les luttes antiracistes et antifascistes.
Est-ce que vous voulez commencer un peu par nous dire les différentes actions que vous portez, notamment la campagne de boycott que vous soutenez, que vous diffusez ?
Oui, du coup, le collectif, parmi ses leviers d'action, intègre la campagne BDS. Donc BDS, c'est un acronyme qui signifie boycott, désinvestissement et sanctions envers Israël. Donc il va globalement appeler à boycotter des produits, soit d'alimentation ou tout ce qui va être attrait à la culture et qui va permettre de blanchir aujourd'hui l'image d'Israël politiquement. Donc on est actif à ce niveau-là, en suivant les campagnes internationales, mais en étant aussi moteur et motrice de campagne sur Lyon et à l'échelle nationale. Dernièrement, on a été très présent aussi dans la rue, à plusieurs reprises. On a été présent à Bruxelles à l'appel d'une manifestation et d'un rassemblement internationaliste avec des militants et militantes palestiniens du monde entier, devant le Parlement européen, pour répondre à un fait d'actualité qui est que l'accord d'association entre l'Union européenne et la Palestine a été récemment renouvelé.
Israël.
Pardon, ouais, Israël. Un accord qui fait d'Israël un vrai acteur économique au sein de l'Union européenne et qui va faciliter donc le commerce, la recherche entre les pays européens et Israël et qui participe du coup à dynamiser l'industrie militaire israélienne. On a aussi été présent très récemment, là, ce week-end, à Lyon, en organisant une manif très dynamique, donc de soutien au peuple palestinien. Et globalement, voilà.
De Bellecour au Terreau, ouais. Avec 500 personnes qui ont manifesté leur soutien, leur solidarité avec la Palestine.
Peut-être on reviendra plus tard sur les événements que vous avez déjà prévus et qu'on essaie de prendre un peu un cadrage plus général. Et peut-être qu'on peut commencer, si vous voulez bien, nous faire un peu un point d'actualité sur les luttes palestiniennes en cours et la situation un peu là-bas sur place.
Alors, je vais prendre la parole sur la situation en place. Hein, je pense qu'on... Malheureusement, depuis de trop nombreuses années, hein, on assiste à une intensification de la colonisation. Hein. C'est vrai, sous couvert de plein de choses, on va justifier hein, de la part d'Israël une répression absolument féroce hein, qui croît d'année en année. Mais on a bien compris, l'objectif étant quand même la colonisation et la judaïsation de la Palestine. Ça, c'est l'objectif. Comment elle s'y prend ? Elle s'y prend, bien sûr, en mettant en place cette répression dont je parlais. C'est de grappiller, hein, en expulsant les Palestiniens de leur maison, en utilisant des choses comme l'emprisonnement, hein, qui est un des moyens aussi utilisés par Israël. Quand on sait que depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens sont passés par les geôles de l'occupant israélien, ça donne quand même le ton et que ça représente à peu près 3 Palestiniens sur 4 qui sont passés par les geôles israéliennes. Donc ça, c'est aussi un moyen hein, de parvenir à leur fin. Tout est fait, tout est organisé de manière à pourrir la vie des Palestiniens et on va parler de roquettes, de machins, enfin tous les arguments sont bons et notamment comme je disais d'autres, enfin je veux dire tout, hein, l'emprisonnement c'est un moyen qui est utilisé et de plus en plus jeune. Et ça Israël ne s'en cache absolument pas, on emprisonne maintenant, c'est légal, c'est dans la loi, des enfants palestiniens à partir de 12 ans. Je veux dire, quand on nous dit oui, c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est, Israël pratique cette politique de manière complètement décomplexée. Et puis c'est légal, hein, c'est des textes de loi. On adopte des lois et on les vote massivement, des lois d'apartheid. Ça, c'est pas du mythe, ça existe, c'est écrit, il y a des dates. et comme l'histoire de la détention administrative aussi, sans raison, vous pouvez vous retrouver en prison avec des périodes renouvelées, des périodes de 6 mois comme ça, je veux dire sans date de fin. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses aussi que vivent les Palestiniens. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, pour un jet de pierre, un enfant va prendre une peine de 15 ans, une peine peut aller jusqu'à 15 ans. Donc là, on voit vraiment que cette intensification, elle est là. On peut quand même, on parle de la Palestine, mais c'est vrai que la Palestine, c'est la Cisjordanie, c'est un fromage, enfin, je veux dire, c'est un véritable gruyère. Hein, tout est enfermé. Vous avez des checkpoints, vous avez des murs, vous avez, tout. Je veux dire. Tout est mis en place pour rendre la circulation aussi impossible. Je disais, on peut quand même, il ne faut pas oublier Gaza aussi. On parle là de la Cisjordanie. Gaza qui est devenu un véritable, je dirais, un camp de concentration. Hein. Gaza est enfermé. Comment peut-on expliquer qu'en 2022, il est impossible de sortir de Gaza? Il est impossible d'y entrer. Je veux dire, vous pouvez aller où vous voulez. Hein. Aujourd'hui, je peux aller dans tous les pays du monde. Le seul endroit où je ne peux pas aller, c'est en Palestine. Et encore plus, je veux dire, à Gaza. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique qu'on enferme une population? Pratiquement maintenant, on est arrivé à plus de 2 400 000 Palestiniens enfermés, privés de leur eau, pas d'eau à Gaza, privés de soins, privés de tout, mais absolument tout. Des bombardements de manière très régulière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, c'est un laboratoire aussi. C'est un laboratoire d'armement que, évidemment, nos pays soutiennent parce qu'on teste des armes qui vont être utilisées par la suite. Je vais vous donner un exemple. 2008-2009, opération Plomb durci. On envoie des bombes sur Gaza. En France, 6 mois après, il y a le salon de l'armement à Paris et le stand israélien dans le salon de l'armement à Paris vient vanter un peu l'efficacité des armes qu'ils ont utilisées sur la population palestinienne de Gaza. Donc voilà un petit peu, sous couvert de plein de choses, on va utiliser cette population pour tester des armes, l'objectif quand même étant de mener cette colonisation et de judaïser à 100% la terre de Palestine. Et voilà, on va utiliser tous les moyens inhumains, absolument atroces, que je viens de vous citer.
Là, tu parlais un peu des différents modes de répression qui se combinent pour vraiment écraser le peuple palestinien. Et est-ce que là, par exemple, le contexte électoral un peu spécifique en Israël annonce encore des nouvelles attaques ou est-ce que vous... C'est quoi votre analyse là-dessus ?
Moi, je dirais que c'est totalement indépendant. Il y a donc... Israël juif qui fait ses élections et la lutte palestinienne, la répression palestinienne, elle est en dehors. Le seul lien, c'est que c'est un argument électoral. C'est celui qui sera le plus dur avec les Palestiniens qui pourra gagner des voix. Parce qu'aujourd'hui, la gauche a été ratatinée, le Meretz ne présente même plus... n'a même plus de candidat, n'a pas passé les 3% qui permettent d'avoir un député. Donc, et aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui a pris l'extrême droite religieuse et extrémiste, c'est les kahanistes, c'est des partisans de Goldstein qui avait tué dans la mosquée d'Hébron, qui avait tué 29 personnes à la Kalachnikov, c'est les partisans de ce type d'action-là qui vont se retrouver ministres. Itamar Ben-Gvir, par exemple. Et ces gens-là ne cachent pas leur volonté de rétablir le temple de Jérusalem et de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Donc ça, il faut s'attendre à des provocations... Bon, les provocations existent quotidiennement, hein. Mais disons que là, il y a une montée de l'extrême droite. Bon, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas qu'en Israël qu'il y a une montée de l'extrême droite.
Ouais. Et est-ce que face à du coup ces stratégies répressives qui sont du coup renforcées par l'arrivée de l'extrême droite en Israël, il y a aussi heureusement des nouvelles formes de résistance qui voient le jour. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit état des lieux déjà des différentes forces en place, armées ou pas, et notamment faire un petit point des dernières nouvelles émergences des formes de résistance, notamment de la tanière des lions.
Alors, juste avant de revenir à cette nouvelle forme de résistance, moi je tiens quand même à saluer cette résistance hein, qui, quand même malgré tout, qui résiste depuis le début. Hein, ça, je veux dire, depuis le début de l'occupation, là, on sent que les gouvernements successifs ne sont jamais parvenus, malgré tout, à leur fin, complètement. C'est très très compliqué, ils ont confisqué des terres, ils ont enfermé des gens, ils torturent, parce que sachez que la torture est légale aussi sur les Palestiniens, donc ça c'est une loi aussi, on a le droit de torturer, c'est la loi des Palestiniens. Donc malgré toute cette répression, c'est vrai que la résistance, elle a toujours été présente malgré tout, et je la salue, hein, je la salue parce que c'est aussi un exemple pour toute l'humanité. Ça c'est important de se dire que dans cet endroit du monde, avec tout ce qu'ils subissent, la résistance, elle existe, elle a toujours existé, mais comme tu viens de le dire, elle évolue aussi. Et c'est ce à quoi on assiste avec l'histoire de la tanière des lions, ce nouveau groupe, on va dire, de résistants. C'est vrai qu'il pose beaucoup de problèmes à l'armée, parce qu'ils sont arrivés comme ça subitement. On sait très peu de choses sur ses racines, sur son influence. En tous les cas, on constate qu'ils sont très bien organisés, qu'ils sont armés. Ils posent problème à Israël. Ils posent aussi problème, et je pense qu'il ne faut pas non plus oublier, il y a un acteur qui est important, c'est l'autorité palestinienne. Cette autorité qui est mise en place par les instances internationales et par Israël, bien sûr, qui est censé représenter les Palestiniens, mais qui collabore en fait avec Israël. Et cette autorité palestinienne aussi craint beaucoup cette émergence un peu de ce groupe de résistants, notamment la tanière au lion. Et on l'a vu un petit peu comment elle a posé problème, parce qu'ils étaient organisés, ils sont armés. Benny Gantz, le ministre qui avait dit dès qu'ils sont commencer à agir, vous inquiétez pas, ils ne sont qu'une trentaine. Très vite, ils se sont rendus compte qu'il a fallu mobiliser des milliers de soldats, notamment dans les villes de Naplouse et de Jenin. Et ils se sont rendus compte, en fait, que c'était beaucoup plus important que ce qu'ils imaginaient, qu'ils ont découvert quand même, côté palestinien, une véritable, je dirais, conscience populaire. Et quand les gradés de l'armée ont pénétré notamment Jenin, et Naplouse aussi, ils ont constaté ça, c'est qu'ils disaient... d'habitude, quand on pénètre dans les camps ou dans ces villes-là, on est attendu par les résistants armés, enfin profil un peu militaire. Et là, il a dit, toute la population, en fait, s'est transformée en résistants actifs. Il y en a un, enfin, je veux dire, un militaire israélien citait, il disait, il y avait les combattants armés, il y avait les lanceurs de pierres qui nous attendaient à chaque angle. Il disait, à un moment donné, on a rencontré une vieille personne aussi, elle ne savait plus quoi nous lancer, elle est allée dans sa voiture, elle avait un litre de lait, en fait, qu'elle a jeté sur un des soldats. C'est une anecdote, en fait, qui prouve que tout le monde, je veux dire, soutient cette nouvelle résistance qui tient à se démarquer un petit peu de tout ce qui existait jusqu'à présent, le Fatah, le Hamas, etc. Et ils tiennent eux aussi, de toute façon, à se démarquer. Et je pense que c'est un espoir pour la population palestinienne. Et en tous les cas, ils sont soutenus par toute la population, et nous les saluons quand même, parce que dans ce contexte, c'est pas facile de résister avec ce déploiement de moyens militaires sur une population qui est complètement désarmée, qui n'a pour résister que sa vie, parfois des cailloux, des pierres, mais qui n'a que sa vie pour résister. Et moi, je les salue.
Et si on se place un peu maintenant du côté internationaliste, est-ce que... vous pouvez un peu repréciser les liens de solidarité qui existent justement entre le peuple palestinien et d'autres peuples
qui ont aussi des perspectives politiques, idéologiques, parfois similaires, je pense au Kurdistan, et aussi peut-être faire un point sur la criminalisation, notamment en Europe, des mouvements, des collectifs, des associations de soutien. Là, on pense évidemment à la dissolution de Palestine Vaincra par Darmanin. Qu'est-ce que...
Du comité Action Palestine aussi, je crois. Ouais.
Oui, deux sur Toulouse.
Mais... Alors, sur le soutien international, la Palestine ne peut compter que sur des gens comme nous, en fait. C'est sur la société civile, parce qu'ils sont abandonnés de tout le monde. De tout le monde. Évidemment, les pays arabes, pour la grande majorité, ont été acquis à la cause israélienne, avec l'entremise de Trump notamment, enfin des États-Unis. Donc, il faut bien comprendre que si c'est une lutte qui est évidente, le droit à l'autodétermination pour un peuple, c'est une lutte évidente. Et malheureusement, bon, l'Europe, avec ses grands principes, est en collusion totale, en complicité avec Israël. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun pays qui soutient la Palestine. Et la Palestine ne tient que par sa propre lutte et puis des internationaux, mais la société civile principalement. On peut dire que c'est un pays... Bon, à une certaine époque, quand il y avait le camp soviétique, et c'était un peu différent. Aujourd'hui, les choses ont complètement basculé. Ils sont abandonnés de tous.
Juste une petite précision dans ce que dit Dominique par rapport à l'abandon et au soutien des pays. Je tiens quand même à bien faire la distinction entre les gouvernements quand même et les peuples. C'est vrai que la majorité des peuples, je dis bien dans le monde, quand même soutient le peuple palestinien. Ça, c'est important de le dire. Et que les gouvernements, même si un à un, ils rejoignent un petit peu ce soutien à Israël, leur peuple, en grande majorité, soutiennent quand même le peuple palestinien. Je pense que c'est quand même important de le préciser. En plus, je pense que c'est une question qui nous intéresse tous. Souvent, on nous dit, mais quel rapport... Pourquoi est-ce que c'est loin, etc. En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne directement, hein, je veux dire, tu posais la question avec les autres peuples. C'est que, tout à l'heure, je parlais de laboratoire. Il y a un autre laboratoire, il y a d'autres tests qui sont menés justement par rapport à la répression. Je veux dire, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes à une période, la manière dont la France a réprimé le mouvement, c'était des méthodes qui ont été testées durant les manifestations sur les Palestiniens. On va tester aussi cette résistance, on la teste, elle est observée et elle nous concerne parce que, je veux dire, si on ne s'y intéresse pas, c'est ce qui va nous arriver de toute façon. Très important parce que nous sommes directement liés à cette question palestinienne. Je vais juste citer un auteur qui s'appelle, c'est une femme qui a écrit La stratégie du choc, elle s'appelle Naomi Klein. Et elle a dit quelque chose de très très juste et tellement vrai. Elle a dit sur ce qu'il se passe là-bas en Palestine notamment, c'est vrai que tous les gouvernements ont les yeux braqués hein, sur cette colonisation, sur cette répression. Mais il y a autre chose qu'on observe beaucoup et qui est très importante aussi pour les gouvernements. C'est de nous observer, nous aussi qui sommes en dehors, et savoir jusqu'à quel point nous sommes prêts à ne pas agir. Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'on nous observe aussi et savoir se dire, bon, il y a ce qui est fait là-bas, il y a cette répression qui est menée, mais en termes de résistance, c'est vrai que les Palestiniens font leurs preuves au quotidien, mais tous les gens dans le monde qui savent ce qu'il se passe là-bas, jusqu'à quel point ils sont prêts à agir ou ne pas agir. Donc, je pense que nous sommes, nous aussi, observés. Et c'est important de se dire que cette cause nous concerne, elle nous concerne tous. Il s'agit de notre liberté, comme le disait aussi Nelson Mandela aussi. Il s'agit aussi de notre liberté.
sur les formes justement des criminalisations et de répression des collectifs, notamment en France.
Oui, donc il y a eu le cas du collectif Palestine Vaincra et du comité d'action Palestine. Nous, on s'est positionné évidemment pour la défense de ces groupes et c'était associé également avec la GAL à Lyon.
Tu peux avec repréciser ce que c'est ?
Le groupe Action.
Le groupe antifasciste Lyon et environ.
Voilà, groupe antifasciste Lyon et environ, la GAL. Donc, en ce qui concerne la criminalisation, il y a eu, comme disait Jean-Baptiste, les actions BDS, les actions de boycott qui ont été criminalisées. Et on a. Bon, les militants en général, on a essuyé des dizaines de procès. Mais là-dessus, il y a eu, on peut dire qu'on a remporté la victoire et que aujourd'hui, la Cour européenne a reconnu le droit au boycott. C'est important de le dire. Le boycott est légal en France parce que évidemment, on entend le contraire par les pro-israéliens. Mais le boycott est légal en France. À Lyon, au tribunal, à la cour d'appel, il y a eu, on a remporté également la victoire puisque on était traîné en justice. On était traîné en justice pour avoir appelé à boycotter les médicaments Teva, qui sont des médicaments israéliens. Et donc, à la cour d'appel, ce procès, on l'a gagné en première instance et on l'a gagné en appel à la cour d'appel de Lyon. Donc c'est en début d'année.
D'accord. Peut-être pour terminer, est-ce que vous voulez un peu nous parler des prochains événements que vous avez prévu d'organiser ?
Alors d'ailleurs, à l'échelle locale, mais aussi nationale ou internationale, n'hésitez pas, mais de manière assez réduite, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps.
Très très rapidement, une petite précision encore, par rapport à la dissolution. On a parlé de dissolution des trois associations. Il y a une suspension de la décision et elle refonctionne à nouveau. C'est important de le dire. Voilà, la justice n'a pas encore donné son dernier mot.
Salut. Pour parler des actions à venir du collectif, le mercredi 9 novembre à 18h30 à la Maison des Passages, on reçoit le président d'Amnesty International pour une conférence justement sur l'apartheid israélien envers le peuple palestinien. Donc on vous attend nombreux et nombreuses pour s'éclairer sur ce sujet qui est primordial, puisque c'est un soutien de poids d'avoir comme structure internationale Amnesty International qui est vraiment à statuer sur l'apartheid israélien.
Et ben merci beaucoup. On mettra sur notre site aussi le lien vers le collectif pour vous soutenir aussi si, financièrement, et on mettra en ligne les informations. Et nous, on va finir l'émission avec notre traditionnel agenda.
Et oui, on a une semaine bien chargée. Donc ça commence dès demain avec une soirée de soutien à l'espace communal de la Guillotière qu'on ne vous présente plus. Ça se passe à l'Amicale du Futur qu'on ne vous présente plus non plus, mais c'est 31 rue Sébastien Griff. C'est à partir de 18h. Voilà, vous aurez un peu des infos sur le lieu. Et puis c'est aussi pour fêter les 3 ans de l'ouverture de l'ECG. Le 9 novembre, donc il y a l'événement qu'on vient d'annoncer de la rencontre avec Jean-Claude Samouillet. Il y a aussi à l'espace communal de la Guillotière à 19h une rencontre avec Stéphane Lecourant qui est l'auteur du livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers ». Donc c'est à 19h à l'annexe de l'ECG 27 rue Salomon-Rénac. Jeudi, évidemment, jeudi. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, il y a la manif à 11h30 au départ de Jean Massé. Vous pouvez vous mettre en grève. Et ce week-end, il y a la permanence mensuelle de la CNT Interco 69 à 11h. Donc, ça se passe au local de la CNT rue Burdeau. Il y a aussi la sortie de l'agenda de la lutine comme tous les ans. Et donc, vous pouvez passer à la lutine rue Montesquieu toute l'après-midi à partir de 15h30 pour en récupérer un. Et voilà pour les infos de cette semaine.
Et on vous dit à la semaine prochaine, mais pour un Canu Info en mixité choisi, me semble-t-il.
Tout à fait, qui sera riche et passionnant, comme tous les Canu Info en mixité choisi.
Comme tous les Canu Info. Allez, on vous laisse avec les bonnes continues. À la semaine prochaine ou à la semaine suivante.